Sainte Bible selon Saint Jérôme, second livre des Maccabées, chapitre 3. Donc, lorsque la sainte cité était habitée en toute paix, et que les lois aussi étaient encore parfaitement observées, à cause de la piété d'Onias le pontife et des esprits qui avaient en haine le mal, il arriva que les rois eux-mêmes et les princes jugeaient ce lieu digne du plus grand honneur et ornaient le temple de très riches présents. Mais Simon, de la tribu de Benjamin, constitué intendant du temple, s'efforçait, le prince des prêtres s'opposant à lui, d'entreprendre quelque chose d'inique dans la cité. Mais comme il ne pouvait vaincre Onias, il vint vers Apollonius, fils de Tarsé, qui en ce temps-là était gouverneur de la Tchelésirie et de la Phénicie. Et il lui annonça que le trésor public à Jérusalem était plein de sommes innombrables d'argent, et qu'il y avait des richesses publiques immenses, qui ne regardaient pas la dépense des sacrifices, et qu'elles pouvaient tomber toutes sous la puissance du roi. Et lorsqu'Apollonius eut informé le roi des sommes d'argent qui lui avaient été dénoncées, celui-ci fit venir Héliodore, qui était chargé de ses affaires, et l'envoya avec ordre de transporter ledit argent. Et aussitôt Héliodore se mit en chemin, en apparence comme s'il allait visiter les cités de Tchélésirie et de Phénicie, mais en réalité c'était pour exécuter l'intention du roi. Mais lorsqu'il fut arrivé à Jérusalem et qu'il eut été reçu avec bonté dans la cité par le grand prêtre, il lui rapporta l'avis donné au roi sur les sommes d'argent et lui manifesta pour quel motif il était venu. Et lui demandait si les choses étaient ainsi. Alors le grand prêtre lui représenta que cet argent était déposé dans le temple, et que c'était la subsistance des veuves et des orphelins. Qu'une partie même dans ce dont l'impie Simon avait donné avis appartenait à Hyrcan Tobi, homme éminent, mais que toute la somme consistait en 400 talents d'argent et en 200 d'or. Mais que trompaient ceux qui avaient confié leur argent à un lieu et à un temple qui dans le monde entier était honoré, pour sa vénération et sa sainteté, était entièrement impossible. Mais Héliodore, à cause des ordres qu'il avait reçus du roi, disait qu'il fallait qu'à tout prix cet argent fût porté au roi. Ainsi, au jour marqué, Héliodore entrait dans le temple pour exécuter cette entreprise. Cependant, une agitation considérable régnait dans la cité entière. Or les prêtres avec leurs robes sacerdotales se prosternèrent devant l'autel, et ils invoquaient dans le ciel celui qui a établi la loi sur les dépôts, afin qu'il les conservât saufs à ceux qui les avaient faits. Mais celui qui voyait le visage du grand prêtre était blessé au cœur, car sa face et sa couleur changée annonçaient la douleur intérieure de son âme. Car une certaine tristesse était répandue sur cet homme, ainsi qu'une horreur dans son corps, car une certaine tristesse était répandue sur cet homme, ainsi qu'une horreur dont son corps était saisi, horreur par laquelle la douleur de son cœur devenait manifeste pour ceux qui le regardaient. D'autres aussi accouraient par troupes de leur maison, conjurant Dieu par des prières publiques, à cause que le lieu saint allait être exposé au mépris. Et les femmes, le sein couvert de cilice, accouraient en foule sur les places publiques. Et les vierges même qui étaient enfermées couraient les unes vers Onias, les autres vers les murs, et quelques-unes regardaient par les fenêtres. Mais toutes tendaient les mains vers le ciel, priaient avec insistance. Car déplorable était l'attente de cette multitude confuse et du grand prêtre livré à l'angoisse. Et ceux-ci donc invoquaient le Dieu Tout-Puissant afin que le dépôt fût conservé dans toute son intégrité à ceux qui l'avaient confié. Mais Héliodore exécutait ce qu'il avait décidé, étant lui-même présent dans le même lieu avec les gardes autour du trésor. Mais l'esprit du Dieu Tout-Puissant se montra avec une grande évidence, en sorte que tous ceux qui avaient osé obéir à Héliodore, renversés par la vertu de Dieu, tombèrent dans la défaillance et la frayeur. Car il leur apparut un cheval orné d'un très beau caparaçon, ayant un cavalier terrible. Et ce cheval froissa Héliodore avec les pieds de devant, et celui qui le montait semblait avoir des armes d'or. parurent aussi deux autres jeunes hommes remarquables par leur force, brillants de gloire et riches dans leurs vêtements, lesquels se tinrent autour de lui, et ils le flagellaient des deux côtés, le frappant sans relâche d'un grand nombre de coups. À l'instant donc, Héliodore tomba par terre, et on l'enleva enveloppé dans une grande obscurité, et après l'avoir mis dans une chaise à porteurs, on le jeta hors du temple. Ainsi, celui qui entra dans ledit trésor avec un grand nombre de coureurs et de gardes était emporté, nul ne lui portant secours, la vertu manifeste de Dieu ayant été reconnue. Et lui, par cette vertu divine, était couché, muet, et privé de toute espérance et de guérison. Mais les Juifs bénissaient le Seigneur parce qu'il magnifiait son lieu saint, et le temple qui peu auparavant était plein de crainte et de tumulte, le Seigneur Tout-Puissant apparaissant, fut rempli de joie et d'allégresse. Et alors quelques-uns des amis d'Héliodore priaient Onias d'invoquer le Très-Haut afin qu'il donnât la vie à celui qui se trouvait à son dernier moment. Or le grand prêtre, considérant que le roi pourrait peut-être soupçonner les Juifs d'avoir commis quelque attentat contre Héliodore, offrit pour la guérison de cet homme une hostie salutaire. Et lorsque le grand prêtre priait, les mêmes jeunes hommes, revêtus des mêmes habits, se présentant à Héliodore, dirent « Rends grâce au grand prêtre Onias, car à cause de lui le Seigneur t'a donné la vie. Mais toi, châtié par Dieu, annonce à tous les merveilles de Dieu et sa puissance. » Et cela dit, ils ne parurent plus. Or, Héliodore, ayant offert une hostie à Dieu et voué de grandes promesses à celui qui lui accorda de vivre, et ayant rendu grâce à Onias et rejoint l'armée, retourna vers le roi. Or, il rendait témoignage à tous des œuvres du grand roi qu'il avait vues de ses yeux. Et comme le roi demanda à Héliodore, qui était propre à être envoyé encore une fois à Jérusalem, il dit « Si vous avez quelque ennemi ou quelqu'un formant des desseins contre votre royaume, envoyez-le là, et vous le recevrez flagellé, si toutefois il en revient, parce qu'en ce lieu il y a vraiment quelque vertu de Dieu. Car celui qui a dans les cieux son habitation est le visiteur et le protecteur de ce lieu, et ceux qui y viennent pour mal faire, il les frappe et les détruit. » Ainsi, par rapport à Héliodore et à la conservation du trésor, c'est ainsi que la chose se passa. Lecture de la Sainte Bible de Saint Jérôme, dite la Vulgate. Saint Jérôme de Stridon est docteur de l'Église. Cette traduction en français, réalisée par l'abbé Jean-Baptiste Glaire, est la seule traduction française officiellement approuvée par le Saint-Siège. Copyright jésusmarie.com le 26 février 2009. Fichier également placé sous licence Creative Commons. Le texte de la Bible de Saint Jérôme fut établi d'après les plus anciens manuscrits de la Bible. Les multiples manuscrits hébreux sous forme de rouleaux appartenant à la synagogue de Bethléem en Terre Sainte et les célèbres exemples d'Origène au IIIe siècle qui reproduisent sur 6 colonnes parallèles le texte hébreu et les 5 principales traductions grecques existant alors. Ces originaux hébreux furent détruits vers l'an 600 dans l'incendie de la bibliothèque de Césarée. La Bible Crampon et la Bible de Jérusalem sont établies d'après les textes hébreux dits massorètes, tardifs et moins fiables, ils ne remontent pas au-delà du 7e siècle. Les manuscrits découverts dans les grottes de Qumran ont manifesté la très grande fidélité de Saint Jérôme au texte hébreu. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.